Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série très importante et nous arrivons à l'étude numéro 48. Le titre pour aujourd'hui sera « Les miracles de guérison de Jésus ». Il y avait ceux qui considéraient Jésus comme un faiseur de miracles, une sorte de guérisseur. Et il ne fait aucun doute que cette réputation attirait les foules. Mais Jésus lui-même démentait fortement ce point de vue. Lorsqu'ils lui demandèrent un signe, il refusa. Lorsque un miracle particulier avait attiré une certaine publicité, il demandait à la personne guérie de ne pas le divulguer. Il ne voulait pas que son message, qui était fondamentalement, c'est-à-dire que le royaume de Dieu commençait déjà dans le monde, ne soit pas obscurci par des disciples crédules qui voulaient uniquement voir des miracles sensationnels. Cependant, dans le quatrième évangile, ils sont considérés comme des signes. Après le récit du miracle d'un vin, c'est-à-dire du vin aux noces de Cana en Galilée, vous pouvez lire dans Saint Jean, chapitre 2, verset 11. Je répète, Saint Jean, chapitre 2, verset 11. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles qui fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Quelques chapitres plus loin suit un bon exemple d'une guérison et du souci que Jésus avait que ces miracles ne voilent pas son évangile. Cela se passe de nouveau à Cana, en Galilée. La Bible dit en Saint Jean chapitre 4, versets 46 à 50, « Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. De même, lorsque Jean-Baptiste était en prison, déprimé à la pensée d'avoir annoncé la mauvaise personne, ses disciples qui allèrent voir Jésus ne reçurent pas une réponse directe à leurs questions, mais il leur fut dit plutôt de regarder autour d'eux et de voir les miracles. Jésus dit, « Allez, rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Saint Luc, chapitre 7, verset 22. L'apôtre Jean, il ne pouvait pas ne pas comprendre. C'était là les signes de la venue du royaume de Dieu. Une grande partie de ce même message fut transmise lorsque Jésus prêcha au début de son ministère à Nazareth. Là aussi, il cita la prophétie d'Ésaïe 61 et il offusqua ses auditeurs en le commentant. Il dit aujourd'hui cette parole de l'Écriture sainte que vous venez d'entendre est accomplie. Saint-Luc chapitre 4, verset 21. Nous pouvons déduire de tout cela que les miracles sont un signe de la présence de Dieu parmi nous. Ils ne doivent pas être pris comme quelque chose qui confirme une puissance particulière à la personne qui l'accomplit. En fait, si elle est un représentant authentique de Dieu, elle évitera la publicité. Là où Dieu est, il y a la guérison et la santé. Son messager peut signaler cela comme étant une preuve que le règne de Dieu est vraiment là. Avec ces remarques préliminaires, considérons maintenant l'un des évangiles et voyons comment l'auteur présente Jésus, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Au cours de son récit, il ne peut pas ne pas accorder une place importante aux guérisons miraculeuses. Il y a et il y aura toujours des discussions interminables à propos des auteurs des quatre évangiles qui furent finalement inclus dans le canon du Nouveau Testament. Mais le poids de l'opinion accorde sa faveur en nommant celui de Saint-Marc comme étant l'évangile le plus absorbant, le plus complet et qui fut rédigé tout au début. L'auteur utilisa un matériau précoce et son évangile fut plus tard exploité par les autres pour leurs matériaux. Mais ce court évangile fut présenté par un écrivain ou un rédacteur qui est dépeint comme étant Saint-Marc. La tradition affirme qu'il est ce Jean-Marc qui au début accompagna l'apôtre Paul et Barnabas dans leur voyage missionnaire. L'apôtre Paul ne lui donna pas une seconde chance. Par contre, Barnabas, lui, le fait. Notez Actes chapitre 13, verset 13, ainsi que le chapitre 15, verset 36 à 41. Si 2 Timothée contient des morceaux authentiques de la part de l'apôtre Paul, comme le croient certains érudits, il y a eu une réconciliation entre eux. Il dit en 2 Timothée, chapitre 4, verset 11, « L'apôtre Luc seul est avec moi. » C'est ce qu'il dit. « Donc prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » À la manière de certains peintres, certains pensent que cet écrivain se plaça directement dans le récit comme le jeune homme, oui, le jeune homme dans le jardin lorsque Jésus fut arrêté, car la Bible dit en Saint-Marc, chapitre 14, versets 51 et 52, « Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. » On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. La tradition a également associé ce jeune homme, Jean-Marc, à l'apôtre Pierre dans ses dernières années. Il semblerait qu'il ait tout le temps fait partie de petits noyaux et qu'il fut un témoin visuel des scènes nombreuses qu'il dépeint. Il fut un écrivain digne de confiance qui rédigea l'Évangile sous sa forme actuelle environ en 64 ans. après Jésus-Christ. Maintenant, lisons son évangile, un œil sur les guérisons miraculeuses et leur signification. Jésus y est présenté comme étant le Fils de Dieu, annoncé par les Écritures antiques. La mission de Jean-Baptiste est brièvement décrite, ainsi que son baptême de Jésus. Après 40 jours dans le désert, affrontant la tentation, Jésus commence sa prédication lorsque Jean-Baptiste est emprisonné et il proclame une grande partie de son message comme le faisait le Baptiste. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Saint Marc chapitre 1, verset 15. Jésus marche le long du rivage de la mer de Galilée et il appelle ses premiers disciples Simon-Pierre et son frère André. Il appelle également Jacques et Jean, fils de Zébédée. Ensuite, il entre avec eux dans la synagogue de Capernaum et il commence à prêcher. Son enseignement les impressionna par son autorité. Et son premier miracle est une démonstration de cette autorité en Saint Marc, chapitre 1, versets 23 à 26, où il est dit « Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Les gens dans la synagogue furent saisis de stupéfaction et ils en conclurent qu'ils voyaient là un nouveau genre d'enseignant dont l'autorité pouvait commander aux esprits impurs et qu'il lui obéissait. Tout ceci est néanmoins vrai. Pour cette même raison, cela arriva réellement. L'apôtre Jean n'aurait pas pu raconter une telle histoire. Il était bien trop sophistiqué. Les esprits sortent en criant, les personnes s'évanouissent et elles sont restaurées. L'autorité de la sainte parole de Jésus est ce qu'elle illustre. Vous pouvez comprendre pourquoi les premiers apôtres guérissaient au saint nom de Jésus et pourquoi ils attribuaient une telle puissance à ce saint nom. Le mal était personnifié non seulement dans le diable, Satan, l'adversaire ou quelques autres noms utilisés, mais il était également dans les esprits mauvais. Nous n'avons pas totalement rejeté ce point de vue du mal au XXIe siècle. En nous occupant de drogués ou d'alcooliques, nous pouvons encore ressentir qu'une quelconque puissance différente a saisi une personne qui est d'ordinaire intelligente et responsable. Et la psychanalyse nous a enseigné à quel point notre comportement est contrôlé par des forces provenant de l'inconscient. Freud peut décrire l'inconscient comme étant un territoire sur lequel des barrières sont érigées, mais les conséquences du refoulement, la dysfonction des personnes hystériques, ressemble à l'œuvre du mauvais esprit. Mais l'histoire contient peu de compassion. Jésus est davantage dépeint dans le rôle du maître plutôt que dans celui qui guérit. C'est son autorité qui remue la foule et non pas seulement la guérison. Personne ne semble avoir un intérêt quelconque pour le démoniaque. La réputation de Jésus s'étend, son autorité sur les puissances du mal est racontée, mais rien de plus n'est dit de l'homme qui avait un esprit impur. Ce qui suit est assez différent. Il, Jésus, entre dans la maison où les quatre premiers disciples vivent ensemble, apparemment, où la belle-mère de l'apôtre Pierre s'occupe d'eux. La Bible dit, en Saint-Marc chapitre 1, versets 30 et 31, « La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, Jésus la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis, il les servit. » Voici une guérison authentique au sein du cercle familial. Les autres ont de la peine pour celles qui souffrent. Il y a une prière de guérison et Jésus l'a pris par la main. En sa présence, ce ne sont pas seulement les esprits mauvais qui tremblent, mais la maladie n'a pas non plus sa place. Où qu'il se déplace, il y a la santé, car la règle de Dieu prévaut. Mais à ce moment-là, il ne crie pas, comme lorsqu'il chassa l'esprit impur. Mais maintenant, c'est la douceur du toucher de sa main. Un hymne s'en fait du reste l'écho. Ton toucher a toujours son ancienne puissance. Je répète, ton toucher a toujours son ancienne puissance. Souvent nous entendrons parler de la manière dont il les toucha, et c'est alors qu'il fut restauré et rétabli totalement. Là, c'est l'action naturelle de la compassion et la santé coule parce qu'il est là. Oui, Dieu est à l'œuvre. Alléluia. Il ne fait aucun doute que toutes sortes de rumeurs circulaient à son sujet et de nombreuses personnes disaient qu'il était un faiseur de miracles. Les malades de tout genre et les amis de ceux qui étaient possédés de mauvais esprits se bousculaient à la porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas, absolument pas aux démons de parler parce que il le connaissait. Saint Marc, chapitre 1, verset 34. Voilà le commencement d'une méprise. Il est vu en tant que maître des démons. Il est un guérisseur ayant une puissance miraculeuse. Le fait de réduire les démons au silence n'est peut-être rien de plus que les divagations démente d'un fou qui lui attribue des honneurs et des malédictions. Il devient connu pour quelque chose qu'il n'était absolument pas. Et ce qui est plus important, son message de la venue du royaume de Dieu était malheureusement ignoré. Si le royaume de Dieu s'approche, alors l'on peut s'attendre à ce que le royaume du malin soit vaincu, ses serviteurs qu'ils soient réduits au silence et la malédiction ôtée. Les maladies diverses qui affligeaient les gens seraient purifiées et il n'y aurait plus de mort, ni de pleurs, ni de larmes, ni de douleurs. Il a porté la vision d'Apocalypse chapitre 21. Mais les foules voyaient en lui un homme extraordinaire qui pouvait accomplir des miracles et elles voulaient en profiter pendant qu'il était là. Au sein de la restriction de la vie humaine, il ne pouvait pas être là et guérir toute la Galilée. La guérison était inévitable lorsqu'il était là et ceux qui souffraient pouvaient recevoir sa puissance gracieuse. Mais il n'était pas venu pour cela. Très tôt le matin, Jésus s'éloignait des foules pour être seul avec Dieu. Simon et les autres ne pouvaient pas comprendre. Cette grande réussite ne pouvait pas être prise à la source. Finalement, ils le trouvèrent et ils le pressèrent de retourner vers les foules. Eux aussi se méprenaient un peu sur lui. Sa réponse à leur requête est assez claire. Jésus dit en Saint-Marc, chapitre 1, verset 38, « Allons ailleurs, allons dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti et que je suis venu. » J'ai pris cela dans une version allemande, puisque je suis de langue allemande. Sa mission était donc de prêcher le royaume, de prêcher la guérison née que un dérivé. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa les démons. Saint Marc chapitre 1, verset 39. Nous devrions commencer à voir la relation étroite entre sa prédication et l'expulsion des démons. Ceci est une démonstration de la puissance du royaume ou du règne de Dieu. Saint Marc et ses contemporains, et Jésus également, voyaient la situation comme étant un combat entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Cela est très clair lorsque cela concerne les démoniaques ou les drogués ou des personnes qui sont sous l'emprise de quelque chose d'autre que leur volonté consciente. Cela est également vrai des nombreuses maladies qui pourraient être classées comme étant fonctionnelles. Les aveugles, les sourds, les muets peuvent être également la conséquence d'un esclavage d'une autre puissance. À l'heure actuelle, la plupart des guérisons les plus surprenantes sont celles de malades tels que ceux-là. Ils sont libérés. Lorsque nous examinons les coups d'envoi de la campagne de Jésus et de ses disciples, proclamant et démontrant la puissance du royaume sur toutes les puissances mauvaises, l'apôtre Marc nous raconte une histoire différente qui ne se déroule ni sur la scène publique de la synagogue, ni dans l'atmosphère priante d'une maison. C'est avec un paria de la société. Il dit, écoutez bien, en Saint Marc, chapitre 1, verset 40 à 45, un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et il lui dit « Garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme s'en était allé, se mit malheureusement à publier la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Nous voyons que Jésus est confronté à une personne dans le besoin qui est presque convaincue qu'il peut le guérir s'il le veut. Jésus répond avec compassion. Il le touche. Il assure au lépreux sa volonté de le guérir et il le renvoie purifié. Et une fois de plus, il essaye d'éviter la publicité inévitable d'une telle guérison. Ainsi l'apôtre Marc nous a donné tout de suite une vue d'ensemble de la guérison ou d'une grande partie de la guérison, partant de l'expulsion autoritaire des démons en passant par des requêtes familiales, les foules, la fuite dans le calme et la prière et le lépreux solitaire. Puis enfin vient, à un rythme plus lent, l'histoire d'un homme paralysé qui est amené par ses amis. Cette histoire a une grande signification pour l'apôtre Marc parce qu'elle l'aide dans sa présentation de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Saint Marc, chapitre 1, verset 1. Cela se passe à Capernaum, où il attira de nouveau une grande foule pour voir un autre miracle, sans aucun doute. Il prêchait à cette foule qui se pressait dans une maison qui était pleine jusqu'à obstruer la porte. La Bible dit en Saint Marc chapitre 2, et notez le verset 3 jusqu'au verset 12. Des gens sont venus à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Mais il blasphème! Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Yahvé l'Éternel Dieu lui seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire, au paralytique. Tes péchés sont pardonnés, ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant même, le paralytique se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiant Dieu, disant « Nous n'avons jamais vu rien de pareil. » Oui, il y a là de nouveau une certaine autorité, mais le commencement de la guérison, elle se situe lorsque Jésus, il voit la foi des amis. Il y a de nombreuses personnes qui ont besoin des guérisons et qui ne prieront pas pour elles, de nombreuses personnes qui sont privées de foi par la peine. Voilà donc une histoire dans laquelle eux, les amis, ont de la foi pour l'homme malade. Retenez bien cette leçon. Il apparaît déjà deux sortes de guérisons. La première, c'est celle d'une personne aux prises des forces mauvaises. Quelle que soit notre mythologie du malin, nous avons besoin de reconnaître que certaines personnes sont absolument incapables d'avoir une action responsable parce qu'elles sont contrôlées bien au-delà de leur volonté consciente. Du temps de Jésus, il y avait une mythologie complexe du malin, et contre un tel royaume, Jésus affirmait l'autorité supérieure du royaume de Dieu venant dans le monde. Dans cette guérison du paralytique, il proclame le droit d'exercer la puissance de cette autorité. Il pardonne les péchés qui paralysent les gens. Jésus parle comme s'il n'y avait aucune différence entre assurer au paralytique qu'il est pardonné et lui donner la force de se tenir sur ses pieds. C'est le deuxième genre de guérison, non seulement l'affirmation d'autorité par Jésus, mais le libérant pour se guérir lui-même. Jésus ne guérit pas seulement le paralytique, mais il lui pardonne. Nous avons déjà vu comment la personne guérie a un rôle à jouer, sauf dans le cas de l'homme possédé. Les malades lui sont amenés, le lépreux l'implore, mais le paralytique s'associe les deux courants de guérison qui proviennent de Jésus. Il proclame l'autorité pour pardonner les péchés et il dit à l'homme qu'il est libre. Le pardon et l'absolution se trouvent dans le miracle de la guérison. L'apôtre Marc poursuit la controverse entre Jésus et les scribes à propos du droit de faire de telles déclarations, c'est-à-dire sa puissance pour pardonner les péchés et son droit apparent à ne tenir aucun compte des lois sabbatiques. Donc, en clair, l'apôtre Marc croyait que ces guérisons miraculeuses conduisaient à la controverse. Voici donc un autre exemple au chapitre 3. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus, tous observaient Jésus, les scribes, les pharisiens, etc., pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là, au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il étendit sa main et sa main fut guérie à l'instant même. Saint Marc, chapitre 3, versets 1 à 5. J'ai pris cela d'une version allemande, mais ne soyez pas inquiets, vous pouvez vérifier dans vos versions françaises. L'apôtre Marc dit qu'après cela, les pharisiens et les hérodiens se rassemblèrent et qu'ils complétèrent pour le tuer. Jésus guérit parce que la présence du royaume de Dieu le demande et incidemment, il réduit au silence leur réprobation toute prête. L'atmosphère est tendue. Nous pouvons sentir l'hostilité, bien que les scribes ne disent pas un mot. Lorsque Jésus essaye de se retirer avec ses disciples, il est assailli par les foules qui affluent de toutes les régions, pas tellement pour entendre parler de la venue du royaume de Dieu, malheureusement, mais uniquement pour la guérison, et peut-être aussi, va savoir, pour le spectacle. Saint Marc, chapitre 3, versets 9 et 10. Jésus chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être pressé par la foule. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Et c'est au milieu de cette agitation, le combat engagé entre la lumière et les ténèbres, que Jésus choisit ses disciples et il semble qu'il remplace sa famille. Le groupe se déplaçait en prêchant et en guérissant, en réfutant les scribes et en chassant les esprits impurs. Son enseignement parlait du royaume et servait à communiquer sa parole. Petit à petit, les disciples commencèrent à découvrir son autorité. Mais quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Notez Saint Marc, chapitre 4, verset 41. Après qu'il eut calmé la tempête, il alla de l'autre côté du lac, qui est le pays des Gadaréens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, voilà que vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec des chaînes. Saint Marc, chapitre 5, versets 2 et 3. Le disciple Marc continue de peindre un portrait d'un maniaque incontrôlable et extrêmement violent. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte : « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu Très-Haut ? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait : « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda : « Quel est ton nom ?»« Légion est mon nom, » lui répondit-il, « car nous sommes nombreux. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. L'histoire se lit un peu comme un mythe de l'ancien temps. La conversation avec le maniaque est totalement en termes de guerre entre le royaume du bien et le royaume du mal. Car en présence de Jésus, les esprits mauvais se rendaient et Jésus les traitait comme des prisonniers de guerre. Il leur permit d'aller dans un troupeau de porcs qui les conduisit à la destruction. La Bible dit en Saint Marc chapitre 5, versets 12 et 13, « Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. » L'histoire est clairement racontée dans la mythologie de l'époque, et elle suscita de nombreuses questions pour ceux qui la lurent en premier. Il est dit que Jésus avait une très grande autorité sur les forces du mal. Sa mission serait donc considérée comme étant une introduction dans un royaume qui chasserait le mal du pays. Derrière tout cela repose l'histoire des disciples étonnés, tandis qu'ils regardaient Jésus s'occupant du maniaque incontrôlable sans utiliser la force. Il raisonne avec celui qui a perdu la raison. Le sort des porcs n'est pas facile à comprendre, mais ce qui suit montre combien les gens s'intéressaient peu à la guérison du maniaque. Ceux qui avaient essayé de l'enchaîner pouvaient être heureux qu'il soit désormais calme, mais dans l'ensemble, les gens trouvèrent que Jésus était bien trop puissant. Les nouvelles vont vite. Ils sont venus voir ce qui s'était passé et ils ont vu le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Saint Marc, chapitre 5, versets 15 à 17. Voyez-vous, le triomphe du bien sur le mal n'est pas toujours bien apprécié. Mais qu'en est-il du démoniaque guéri? Ce ne sera pas facile pour lui de rester là, auprès, surtout après la destruction du troupeau de porcs, et en quelque sorte, il en est tenu pour responsable. Naturellement, il demande eux demandent à partir avec Jésus. Mais celui ne le lui permet pas. Non, non, non. Alors Jésus renverse sa règle habituelle de demander le silence et il demande à l'homme de rester là où il est, dans le voisinage, où il a eu un tel problème terrible, et de témoigner de la puissance du royaume de Dieu. Jésus lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. » Verset 19 de Saint Marc, chapitre 5. C'est ce qu'il fait précisément, et il répand la nouvelle de ce que Jésus a fait pour lui à travers toute la région de la Décapole. Le disciple Marc accorde assez d'espace à cette histoire, et il l'a fait suivre d'autres cas qui sont assez différents de guérison. Sa présence même de Jésus, elle est guérissante habituellement, simplement avec le toucher de sa main. Là où Dieu est manifesté avec suprématie dans la personne de Jésus, alors santé et guérison sont l'environnement naturel. À la suite de la guérison de Légion au chapitre 5, il y a le récit en longueur de deux guérisons racontées sous une forme dramatique. L'on demande à Jésus d'aller avec le chef de la synagogue, appelé Jaïrus, pour qu'il impose les mains sur sa fille qui est sur le point de mourir. Mais sur le chemin, Jésus sent que quelqu'un dans la foule le touche et il rencontre ainsi la femme avec la perte de sang. Tandis que cela se produit, l'état de la petite fille s'aggrave et des gens viennent annoncer qu'elle est morte. Cependant, Jésus poursuit son chemin et avec une tendresse mémorable, il dit « Talitha Krumi, jeune fille, lève-toi. » Cette fille de 12 ans est alors rendue à ses parents. Mais, voyez-vous, l'histoire, elle est liée ensemble et elle donne quelques nouveaux aspects du ministère de guérison de Jésus. Considérons d'abord l'interruption. Jésus n'est pas plus préoccupé par ce qu'il est en train de faire qu'il n'avait le temps pour les autres. Où qu'il soit demandé, il a le temps. Ce miracle de la guérison de la perte de sang est un très bon exemple. La femme voyait qu'il était occupé et elle savait qu'il se précipitait au chevet d'une fille bien-aimée qui se mourait et elle ne voulait absolument pas imposer sa propre douleur au moment où une personne importante avait demandé l'aide de Jésus et qui était sur le point de la recevoir. Mais elle avait tout essayé. En l'espace de 12 ans, elle avait dépensé tout son argent pour des soins qui l'avaient laissé dans l'état où elle se trouvait. Elle avait entendu parler de Jésus et elle sentait que c'était différent. il pouvait la guérir. Ne voulant pas interrompre sa mission, elle toucha simplement son vêtement et sa foi fut assez grande pour lui apporter immédiatement la guérison. Il ne fait aucun doute qu'elle voulait le remercier, mais elle préféra de s'éloigner doucement. Écrire peut-être plus tard une lettre de remerciement. Mais elle avait compté sans Jésus. Jésus n'est pas simplement un faiseur de miracles, un guérisseur automatique. Non, non, non. La puissance des guérisons s'écoulait de lui, c'est vrai. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Alors les disciples tournèrent la question un peu en dérision. C'est presque une rigolade. Dans cette foule, qui ne le touchait pas ? Il était bousculé de partout. Mais Jésus savait que quelque chose de spécial s'était produit. Vous ne pouvez pas guérir sans donner quelque chose. La femme aussi, elle avait besoin de venir au grand jour. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, elle vient pour se jeter à ses pieds et elle lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va maintenant en paix et sois guérie de ton mal. » Saint Marcos, chapitre 5, versets 25 à 34. Les deux choses qui ressortent de ces deux histoires sont les suivantes. Premièrement, que cela coûtait quelque chose à Jésus de guérir. La puissance sortait de lui. Et deuxièmement, sa guérison est une communion entre la personne guérie et lui-même. La guérison n'était pas complète tant qu'elle n'était pas venue en face de Jésus. La perte de sang tarit, mais la guérison, c'est plus que cela. Lorsque ils eurent fait connaissance l'un de l'autre, il a pu dire « Ta foi t'a sauvé, va en paix et sois guéri de ton mal. » Les trois, la foi, la paix et la guérison, constituent l'ensemble de la guérison. Mais pendant ce temps, évidemment, le retard s'avère être fatal. Et cela nous rappelle la résurrection du pauvre Lazare. Rappelez-vous, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. C'était également un voyage ajourné. Les paroles prononcées par les serviteurs dans cette histoire sont moins convaincantes, mais non pas moins tragiques. Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus ignore cette remarque et il demande au chef de la synagogue de simplement de continuer d'avoir la foi. Pour l'heure, les disciples l'accompagnent dans la chambre de l'enfant mort. Les pleureurs sont repoussés et le rire moqueur à ces paroles que l'enfant n'est pas morte, mais qu'elle dort simplement, indique pourquoi il ne souhaite pas avoir une foule de pleureurs incrédules. Le père et la mère de l'enfant entrèrent aussi avec eux. Cela privatise presque la guérison. Jésus n'accomplit jamais une guérison miraculeuse uniquement pour la publicité, bien qu'un disciple doive voir le signe et de croire. Nous avons vu que très souvent Jésus ordonnait à la personne qui avait été guérie de ne le dire à personne. Et là, Jésus met de côté les foules incrédules et il ne fait aucun effort pour les convaincre. Dans la chambre de la malade, il ne fait entrer que ceux qui sont le plus concernés et inquiets, c'est-à-dire les parents qui demandèrent d'abord son aide, le noyau intime des disciples. Et dans l'intimité de cette pièce, Jésus rendit l'enfant à ses parents. Il saisit l'enfant par la main et lui dit « Talitha krumi », ce qui signifie « jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille maintenant. Saint Marc chapitre 5, notez les versets 41 à 43. Étroitement lié à cette histoire, soulignons le rôle de la foi et excluant même ceux qui ne croyaient pas du tout, nous avons l'incident à Nazareth. Ils, au pluriel, s'étonnaient de son enseignement et des récits de ses œuvres puissantes, mais ils étaient outrés à la pensée qu'il n'était après tout que le fils du charpentier et qu'il n'avait rien d'extraordinaire. Ils étaient offusqués, car Jésus n'avait pas étudié à la faculté de théologie de Tübingen, en Allemagne. Il ne put faire là, hélas, aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Saint Marc chapitre 6, versets 5 et 6. Il réunit ses disciples, puis il les rassembla comme une armée dans son combat contre les puissances des ténèbres. Il leur donna autorité sur les esprits impurs. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils ont oint d'huile beaucoup de malades et les guérissons. Saint Marc, chapitre 6, versets 12 et 13. La triple tâche elle est très clairement définie. C'est-à-dire, premièrement, la prédication, l'expulsion des démons et la guérison. Après un intermède qui est habilement marqué par l'histoire de Salomé, terrible histoire, et de Hérode, et par conséquent, l'exécution de Jean-Baptiste, les disciples appelés désormais les apôtres, ils sont maintenant les apôtres, parce qu'ils étaient envoyés, et les apôtres sont revenus, et ils sont amenés à l'écart, dans un endroit tranquille, pour se reposer et pour prier. L'expérience de la guérison, c'est quand même quelque chose de fatigant, et il est nécessaire que celui qui guérit se ressource dans le repos et le délassement. Jésus lui-même avait également besoin de faire cela, et même de se séparer de ses disciples. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Saint Marc, chapitre 6, versets 45 et 46. Oh, hélas, le repos ne dura pas très longtemps. Les foules se pressaient autour de lui. Ce qu'elle voulait, cette foule, était par trop évident, et il ne pouvait pas refuser. Quand ils furent sortis de la barque, les gens, ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs, et l'on se mit à apporter les malades sur des lits partout où l'on apprenait que Jésus se trouvait. En quelque lieu qu'il arriva, que ce soit dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient était guéri. Saint Marc chapitre 6, versets 54 à 56. Il n'y avait pas beaucoup d'intimité. Les foules sentaient que là où Jésus marchait, il y avait la santé et la guérison de la part de Dieu. Le toucher, la présence, la foi des gens, c'était tout ce qu'il fallait. Ce fut la même chose lorsque, après de nombreuses disputes avec les scribes et les pharisiens, il chercha la quiétude d'un rivage étranger, c'est-à-dire la région de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût. Mais voilà, il ne put rester caché. Saint Marc, chapitre 7, verset 24. Comme les nouvelles circulent assez vite, une étrangère est venue vers lui. Et cette étrangère a une petite fille qui est possédée par un esprit impur. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens ?»« Oh oui, Seigneur, lui répondit-elle. Mets les petits chiens sous la table. Mange les miettes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit et le démon était sorti. » Saint Marc chapitre 7, versets 24 à 30. Nous allons bientôt terminer. Qu'allons-nous faire d'une histoire aussi peu caractéristique? Appartient-elle au tout premier courant de la tradition de l'Église, lorsque l'admission des gentils, c'est-à-dire les nations païennes, était encore un sujet de controverse? La guérison de l'enfant de la femme grecque fut-elle utilisée comme un argument? Quelqu'un a-t-il dit que Jésus était peu disposé à la guérir? Ou était-ce là une autre tentative pour expliquer une parole de Jésus? Chers amis, nous allons terminer cette étude, mais sachez qu'il y a plusieurs paroles difficiles de ce genre dans les évangiles. La guérison est presque accidentelle, une sorte de prix accordé à la femme païenne pour sa répartie pleine d'esprit. Matthieu donne un peu plus de détails à propos de la foi de cette femme, mais le disciple Marc raconte cette histoire simple d'une manière très attrayante. Jésus apprécie la compagnie de cette femme étrangère. Nous pourrions la comparer à la Samaritaine. Vous pouvez lire le chapitre 4 de Saint Jean. Je vous recommande. À son retour en Galilée, qui se fait à travers Sidon, comme nous le dit l'apôtre Marc, à travers la région de la Décapole, vers la mer de Galilée, un homme qui est sourd et muet lui est amené. Et de nouveau, il y a une certaine intimité. Jésus le prit à part, loin de la foule. Il lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha même la langue avec sa propre salive. Puis levant les yeux au ciel, il soupira et il dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla parfaitement. Saint Marc chapitre 7, versets 32 à 34. Chers amis, nous allons maintenant prier ensemble. Étant donné que dans notre actuelle civilisation, l'être humain est plus que jamais sujet de tomber malade, raison pour laquelle le Seigneur désire que je vous soumette des prières qui sont inspirées par son Esprit Saint pour vous permettre de les utiliser vous-même et de les adapter à votre situation personnelle. Prions ensemble. Seigneur, nous désirons que tu nous sanctifies davantage, car nous désirons être dignes de toi. Nous avons compris que notre âme, esprit et corps est un tout, et que Dieu, notre Père céleste, à par amour, envoyé son Fils pour nous racheter. En plus, Jésus-Christ a démontré durant son ministère qu'il désire non seulement sauver notre âme, mais qu'il désire également guérir tous ceux qui souffrent parfois même terriblement. Seigneur, tu nous as montré par ta sainte parole que le péché n'est pas à ignorer. Le péché peut parfois, pas toujours, être la véritable conséquence de la maladie qui inclut les affaires ainsi que les conséquences de la collectivité insensée et égoïste de cette humanité. Nous t'implorons, protège tes enfants dans le monde entier et veuille, nous t'implorons, secourir tous ceux qui spirituellement et physiquement souffrent. Et je voudrais vous dire que j'ai expérimenté durant ma longue vie, puisque j'ai 88 ans, des guérisons parfois miraculeuses moi-même. Oh, je serais un menteur de vous dire que nous pouvons tous vieillir sans aucun problème. Ce serait un mensonge. Mais nous avons un Dieu, notre Papa Céleste, qui nous aime et qui nous a donné son Fils bien-aimé Jésus-Christ pour venir à notre aide. Et je voudrais vous demander simplement, n'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés, ne soyez pas inquiets, s'il vous plaît, ne trouvez pas cela stupide. Veuillez simplement mettre votre main là où vous avez mal, là où se trouve votre souffrance, là où se trouve votre problème. Et croyez et implorez Jésus-Christ qu'il veuille lui imposer sa main, non pas la mienne, mais sa main sainte, sa main guérissante sur la vôtre pour que vous soyez guéri maintenant. Prenez-le par la foi, même si cela n'a pas lieu immédiatement, à l'instant même, continuez de remercier le Seigneur. Remerciez-le et vous verrez s'accomplir des choses qui vous étonneront. À demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette série. Au revoir, que le Seigneur vous bénisse.